franceinter.com.
Bonjour, mesdames, messieurs, c'est Barack Obama qui vous parle. Welcome on France Inter, the French National Radio. Et maintenant, c'est le pop culture show du Mange en Palace, la cellule de dégrisement. Yes, I like it. Yes, I can.
Formidable.
Dans « Comment on meurt », écrit en 1882, Zola explore plusieurs milieux sociaux pour établir sa vérité sur la mort. Mourir comme on a vécu, telle est la conviction de l'auteur.
Ainsi, « Comment on meurt » est un petit livre méconnu d'Émile Zola, mais ô combien fabuleux, et qui est aujourd'hui au menu de notre festin nu, une semaine après la résurrection de Jésus. Vois-tu, l'idée est toute simple. Il s'agit d'esquisser une peinture sociale de la mort par le prisme de 5 petites nouvelles, chacune dans un milieu familial très différent. Mais à chaque fois, et c'est essentiel, la charpente du récit demeure identique. On commence par l'agonie, puis la mort elle-même, ensuite la veillée du corps, dans la foulée les funérailles, et enfin le cimetière. Et figure-toi que l'efficacité d'Émile Zola est redoutable. Car si nous étions encore persuadés d'être tous égaux devant la mort, l'écrivain naturaliste nous démontre avec une précision clinique qu'en réalité, les inégalités sociales triomphent jusqu'au dernier souffle. Ainsi, le mieux pour nous sans doute, c'est de comparer ici les deux histoires les plus opposées parmi ces 5 familles qu'a choisi Émile Zola. Commençons par l'attente de la mort au cœur de la noblesse du XIXe siècle.
Le comte de Verteuil a 55 ans. Il appartient à une des plus illustres familles de France et possède une grande fortune. Cependant, le comte sait qu'il est en danger de mort. Il a exigé la vérité des médecins et il les laisse agir sans une plainte. Sa volonté dernière est de disparaître proprement. En homme du monde qui entend ne déranger et ne répugner personne. Pourtant, un soir, il n'a plus que le souffle. Il sait qu'il ne passera pas la nuit. On a envoyé chercher les enfants, Roger et Blanche, qui se tiennent près du lit, à côté de leur mère. D'autres parents occupent une pièce voisine. La nuit se passe de la sorte, dans une attente grave. Au matin, les derniers sacrements sont apportés. Le comte communie devant tous pour donner un dernier appui à la religion. Le cérémonial est rempli, il peut mourir.
Oui, chez le comte de Verteuil, le savoir-vivre va jusqu'au savoir-mourir. Discret, il attend sereinement la grande faucheuse, non sans avoir une dernière fois rendu grâce à Dieu. Voyons maintenant ce qu'est l'agonie, donc, dans une famille ouvrière des Batignolles, dont le môme forcément chétif n'est pas au mieux.
La mère pleure en serrant Charlot entre ses bras. Le père sort comme un fou et court chercher un médecin. Il en ramène un, très grand, l'air pincé, qui écoute dans le dos de l'enfant, lui tape sur la poitrine sans dire une parole. Puis il faut que Madame Bonnet aille prendre chez elle un crayon et du papier pour qu'il puisse écrire son ordonnance. Quand il se retire, toujours muet, la mère l'interroge d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?»« Une pleurésie, » répond-il d'un ton bref, sans explication. Puis il demande à son tour, « Êtes-vous inscrit au bureau de bienfaisance ?»« Non, monsieur, nous étions à notre aise l'été dernier, c'est l'hiver qui nous a tués. »« Tant pis, tant pis. » Et il promet de revenir. Quelle affreuse journée. Un froid noir tombe du plafond. Dans un coin, la pluie coule. Il faut mettre un seau pour recevoir les gouttes. À chaque bruit de pas, la mère court à la porte, croit que ce sont enfin les secours promis. 6 heures sonnent. Rien n'est venu. Le crépuscule est boueux, lent et sinistre comme une agonie.
Chez les miséreux, la mort est cruelle. elle déboule toujours avec son terrible cortège d'injustices. D'ailleurs, le récit de la mort du môme est insoutenable. Mais revenons chez le comte de Verteuil, car une fois défunt, sa maisonnée endeuillée prépare la veillée funèbre.
On entend au-dessous, dans le grand salon, un bruit de marteau. Ce sont les tapissiers qui disposent cette pièce en chapelle ardente. Toute la journée est prise par l'embaumement. Les portes sont fermées, l'embaumeur est seul avec ses aides. Lorsqu'on descend le comte, le lendemain, et qu'on l'expose, il est en habit. Il a une fraîcheur de jeunesse.
Oui, on dresse une chapelle ardente au milieu du salon des Verteuil, quand le couple d'ouvriers des Batignolles ne sait que faire du corps inerte de leur fils décédé.
La déclaration n'ayant pas été faite le soir, il leur faut garder le petit le lendemain toute la journée. Ils n'ont qu'une chambre. Ils vivent avec Charlot, mangent et dorment avec lui. Par instant, il l'oublie. Puis quand il le retrouve, c'est comme s'il le perdait une fois encore. Enfin, le surlendemain, on apporte la bière. Pas plus grande qu'une boîte à joujoux, 4 planches, mal rabotées, fournies gratuitement par l'administration sur le certificat d'indigence.
La misère est ingrate. Elle ne prête aucune attention au deuil des pauvres. Mais poursuivons notre joyeuse comparaison sociologique et passons dès à présent aux obsèques. Après la cérémonie religieuse, dans une église pleine à craquer, suivons immédiatement le noble cortège funéraire du comte de Verteuil.
Justement, le convoi entre dans le cimetière Montparnasse. Les voix se taisent. On n'entend plus que le grincement des roues sur le sable des allées. Il faut aller tout au bout. La sépulture des Verteuil est au fond, à gauche. Un grand tombeau de marbre blanc, une sorte de chapelle, très ornée de sculptures. On pose le cercueil devant la porte de cette chapelle et les discours commencent. Il y en a 4. L'ancien ministre retrace la vie politique du défunt, qu'il présente comme un génie modeste qui aurait sauvé la France s'il n'avait pas méprisé l'intrigue. Ensuite, un ami parle des vertus privées de celui que tout le monde pleure. Puis un monsieur inconnu prend la parole comme délégué d'une société industrielle dont le comte de Verteuil était président honoraire. Enfin, un petit homme à mine grise dit les regrets de l'Académie des sciences morales et politiques.
Assurément, la mort est toujours plus douce pour les proches du défunt lorsqu'elle s'accompagne du luxe et des honneurs posthumes et officiels. Un peu comme si cette postérité en marbre offrait un brin d'éternité. À l'opposé, quel est le sort des ouvriers lorsqu'ils arrivent au cimetière?
Maintenant il pleut. Et il faut attendre sous la verse un vieux prêtre qui se décide à sortir d'une petite chapelle. Charlot va dormir au fond de la fosse commune. Le champ est semé de croix renversées par le vent, de couronnes pourries par la pluie, un champ de misère et de deuil, dévasté, piétiné, suant cet encombrement de cadavres qu'entasse la faim et le froid des faubourgs. C'est fini. La terre coule, Charlot est au fond du trou, et les parents s'en vont sans avoir pu s'agenouiller dans la boue liquide où ils enfoncent. Dehors, comme il pleut toujours, Morisseau, qui a encore 3 francs sur les 10 francs du bureau de bienfaisance, invite les camarades et les voisines à prendre quelque chose chez un marchand de vin. On s'attable, on boit 2 litres, on mange un morceau de fromage de brie. Puis les camarades, à leur tour, paient 2 autres litres. Quand la société rentre dans Paris, elle est très gaie.
Eh oui, où noyer son chagrin autre part que dans le vin lorsque la mort est aussi violente et injuste? Alors évidemment, ce petit livre d'Émile Zola se déroule au 19e siècle, me diras-tu. Mais à bien y réfléchir, aujourd'hui les choses n'ont pas tant changé. Autrement dit, on meurt comme on a vécu. D'ailleurs, Émile Zola aboutit à cette même conclusion dans ses 3 autres nouvelles, que ce soit chez les bourgeois, les petits commerçants ou chez les paysans. Sois certain qu'il s'agit là d'un petit livre merveilleux, disponible pour 6 € seulement aux éditions du Sonneur, un exercice littéraire très accessible, où les milieux sociaux se percutent non sans cynisme. Pour finir, dans « Comment on meurt », il apparaît néanmoins que la mort contient une dimension égalitaire, quels que soient tes revenus. Que tu sois riche ou misérable, c'est toujours pareil. La mort te coûte les yeux de la tête.